Dachau wurde im Verlauf des Prozesses gegen das Personal des Konzentrationslagers Buchenwald die Angeklagte Ilse Koch vernommen.
Ilse Koch, la chaîne de Buchenwald, épisode 3, la naissance d'un mythe. Alain Lefkowitsch, Rafik Zénine.
Ilse Koch, son surnom, la chaîne de Buchenwald. La raison première de sa diabolisation, ça a été la façon dont a été effectuée la libération ou l'ouverture du camp de Buchenwald.
Annette Viviorca.
C'est une médiatisation immense. Toutes les équipes des actualités filmées sont là pour voir les cadavres. Eisenhower et le général Patton sont présents. J'ai mis au jour le fait qu'il y avait un certain nombre de journalistes, notamment de l'AFP à Buchenwald, et qu'il y a eu un bureau de presse à Buchenwald, fait par les journalistes détenus, qui ont organisé la visite. C'était une sorte de tourisme de l'horreur, avec des passages obligés, notamment les restes dans le crématoire, la photo de ces cadavres ambulants, et puis ce qui attestait le sadisme extrême des nazis, puisqu'à l'époque, c'était ça qui était dominant, ils étaient des sadiques, les abat-jours faits en peau tatouée de détenus. Et il se disait que c'était Ilse Koch, l'épouse du premier commandant du camp, qui les collectionnait. C'est évident que le fait qu'elle ait été une femme a contribué à cette espèce de portrait de sorcière diabolique. Quelque chose de... Oui, de monstrueux. C'est, on en a fait un monstre.
Une femme dont on a fait un monstre, nous dit l'historienne Annette Viviorca, spécialiste de la Shoah. L'arbre qu'on doit couper pour préserver toute la forêt, comme l'explique Claude Quettel, historien, spécialiste de l'étude des structures et des processus mentaux qui conduisent à la décision ou l'événement.
La libération venue... Dans l'urgence même, enfin, en tous les cas, il est évident qu'il va falloir juger les nazis. Mais combien de nazis est-ce qu'on va juger ? La moitié de la population allemande. Dans toute civilisation digne de ce nom, il ne peut pas y avoir de jugement collectif. On ne peut pas juger collectivement un peuple. Et donc, il faut individualiser. Ne serait-ce que pour avoir devant soi quelqu'un avec un nom, un prénom. Il y a eu des dizaines de femmes, d'épouses, de camps de concentration. Donc on va juger celles qui sont en quelque sorte déjà célèbres. Et Ilse Koch s'est rendue célèbre. D'abord parce qu'elle est constamment dans le camp, elle assiste aux exécutions, elle désigne même des déportés qui ne lui plaisent pas ou qui l'ont regardée. Alors c'est là qu'il faut faire attention, qui l'ont regardée de travers ou qui l'ont simplement regardée. Alors, très vite, l'accusation dit, on n'avait pas le droit de vous regarder. Et puis, très vite, on dit, ah oui, et puis vous faisiez collection de peau humaine tatouée. Vous aviez même un abat-jour en peau humaine. Mais où est-ce que la vérité dans tout ça? Alors, en ce qui concerne Ilse Koch, l'accusation va très vite faire un sort à tout ce qui a fait justement sa célébrité, qu'elle ait été une sadique, qu'elle ait provoqué la mort, pas ordonnée, parce qu'encore une fois, elle n'est pas dans le camp, elle n'a pas un rôle, elle n'est que la commandeuse, mais que la commandeuse, c'est une façon de parler. Donc, qu'elle soit gravement coupable, ça va sans dire. Mais l'accusation va assez vite faire un sort aux histoires de peau humaine. Les photos, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et donc, qu'est-ce qu'on expose au procès de Dachau? Trois peaux humaines tatouées et un abat-jour qui, probablement aujourd'hui, était en fait un abat-jour en peau de chèvre. Quant aux peaux tatouées, on connaît aujourd'hui suffisamment l'histoire des médecins SS pour savoir qu'une peau tatouée sur un cadavre pouvait les intéresser. De là à aller chercher ceux qui sont tatoués pour dire « zigouillez-moi celui-là parce que je veux sa peau », donc là, l'accusation a assez rapidement abandonné tout ça. Sauf que c'est ce que l'histoire a retenu.
L'histoire avec un grand H, mais également la presse internationale qui, article après article, photo après photo, vont faire d'Ilse Koch bien plus qu'un monstre. elle va devenir un véritable mythe, l'incarnation féminine de l'horreur nazie, la femme du boucher-corps, sadique et fétichiste. Celle que les journalistes présents en masse ont appelée la Bitch of Buchenwald, l'accusée numéro 15, doit être jugée. Mais comment, tant les témoignages semblent incertains, parfois hasardeux. Julien Aubré, passionné d'histoire et cofondateur de la chaîne YouTube Mabie Twink, productrice d'un film consacré à Ilse Koch.
Concrètement, en gros, après la guerre, en 1947, elle est jugée avec les autres responsables du camp de Buchenwald. Donc elle est jugée à Dachau, qui est un des premiers camps de concentration du Troisième Reich. Et il y a une symbolique assez forte à ce jugement, puisque on est à l'époque où il faut juger les criminels nazis. Et aussi, il y a cette volonté pour les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, pour les alliés, de passer à autre chose.
Lors du procès, vont témoigner de nombreuses personnes. On va même amener des preuves, des pièces à conviction, notamment une collection de têtes réduites de prisonniers, des organes dans du formol, et aussi une fameuse lampe dont l'abat-jour serait faite en peau humaine, prélevée d'un détenu du camp de Buchenwald. Donc on a toute cette collection horrible. Et là, on raconte plein de choses sur cette femme. Alors, des choses vraies, comme son comportement sadique, comme quoi elle venait provoquer les détenus pour ensuite les faire punir. Le fait qu'elle prenait des bains de soleil en tenue légère pour attirer leur regard. Sa cruauté. Tout un tas de choses. Et puis, il y a un doute.
Well, it appears that the legend likely stemmed from the fact, firstly, that there is real.
Il me semble que la légende existe avant tout parce qu'il y a eu de vrais crimes. Des expérimentations ont eu lieu dans le centre pathologique des camps, comme par exemple le fait de prélever des parties de peau tatouées des prisonniers.
Thomas Jardim, historien à l'Université de Toronto, auteur en 2023 de Le procès d'Ilse Koch.
Un des prisonniers qui travaillait dans le centre de pathologie témoigne et précise que les corps n'étaient pas sélectionnés vivants puis tués pour en récupérer la peau, mais qu'ils choisissaient parmi les cadavres les peaux à conserver. Ah, c'était de toute façon une horrible pratique. La présence d'Ilse Koch, parce qu'elle était une femme, a marqué les esprits et toutes sortes d'histoires à son propos se propageaient rapidement au sein des camps. D'après ce que l'on raconte, elle se promenait à cheval dans les camps pendant que les prisonniers travaillaient. Et certains d'entre eux ont affirmé que les SS venaient les battre après s'être entretenus avec elle. Néanmoins, l'usage de la violence étant une pratique habituelle, ces gardes SS n'agissaient pas forcément sous ses ordres. Je dirais que le mythe émergeait à la fois de la rumeur et des façons dont les informations se propageaient au sein des camps. Il y a un fond de vérité, tel que l'existence de ces peaux tatouées conservées dans le département de pathologie, et puis aussi cette histoire de femme à cheval. Ilse Koch est sûrement la seule femme du camp, qui plus est, elle est la femme du commandant. Sa présence marque les esprits. Et c'est ainsi qu'à travers le temps, ces deux faits se confondant, Ilse Koch a été associée à la conservation des peaux tatouées.
Abba Prayer est né en 1923 en Pologne. En 1943, il arrive à Buchenwald.
Je pense qu'elle travaillait là quand je suis arrivé. Elle aime la peau humaine. Elle faisait des abat-jours en peau humaine. Tout le monde le savait. Les gens essayaient même de ne pas être beaux, car s'ils l'étaient, ils risquaient d'être sélectionnés par Ilse pour en récupérer leur peau et en faire des abat-jours. C'est vrai.
L'histoire des abat-jours et des tatouages reste complexe.
Thomas Jardim.
Nous savons que des morceaux de peau tatouée ont été retrouvés à Buchenwald. Et donc, ces crimes ont réellement eu lieu. Mais rien ne laisse penser qu'Ilse Koch y a participé.
An SS doctor named Erich Wagner who worked at Buchenwald, who while he was there wrote a PhD dissertation.
Erich Wagner, un docteur SS qui travaillait à Buchenwald dans le centre de pathologie, a écrit sa thèse approuvée par l'université de Jena
intitulé sur la question du tatouage et de la criminalité, à partir d'une pseudo-science bancale empreinte de l'idéologie nazie, Wagner tente d'établir un lien de causalité entre la tendance des individus à se faire tatouer et une supposée criminalité innée.
And so a number of people testified that worked in the pathology department where these skins were kept.
De nombreux témoins qui travaillaient au centre de pathologie ont affirmé avoir vu Eric Wagner collecter des échantillons de peau dans le cadre de ses recherches pour documenter sa thèse.
Of testimony with regards to the human skin lampshades and human skin book bindings and things. We have a number.
En somme, il existe deux types de témoignages sur cette histoire de la conservation de peau tatouée. D'une part, il y a les prisonniers qui affirment avoir vu ces échantillons. Mais lorsque le procureur leur a demandé si Ilse Koch était impliquée, ils ont répondu que, d'après la rumeur, des objets en peau humaine étaient fabriqués pour elle. Et d'autre part, certains témoins affirment avoir reçu l'ordre de collecter ces échantillons pour Eric Wagner dans le cadre de sa thèse.
William Dawson, procureur au procès d'Ilse Koch en 1947.
La crédibilité des témoignages était primordiale puisqu'il fallait convaincre la Cour de la véracité de situations et de crimes inédits. Mon plus grand problème pour instruire ces cas, c'était de croire ou d'avoir des témoignages crédibles. À cause de leur nature. Non que ce n'était pas vrai, c'était vrai. Mais leur description était si horrible, si sadique, si monstrueuse, qu'ils étaient incroyables.
Elle est jugée en 1947, elle est condamnée à la prison à perpétuité. Ensuite, il y a sa peine qui est commuée. Donc en fait, elle passe de perpétuité à seulement 4 ans de détention. Et les Américains se justifient en disant que voilà, ils ont été victimes de propagande et de suggestions de masse. Ils reviennent un petit peu sur ce qu'ils ont dit sur l'histoire de l'abat-jour, sur l'histoire des peaux humaines tatouées. Mais malgré tout, en fait, la réduction de sa peine provoque une vague d'indignation.
Ilse Koch ne semble pas faillir à sa réputation. Enceinte d'un enfant qu'elle a eu avec son gardien de prison, elle échappe à la peine capitale, droit américain oblige. Et comme l'explique Thomas Jardim, l'affaire Ilse Koch commence à agiter les opinions publiques.
And so there's an explosion of public outcry in the United States. I mean, really big. It's hard to imagine at this point in time, but there was protests on the street.
Le public était horrifié aux États-Unis. La réaction a été énorme. C'est très difficile de l'imaginer, mais à l'époque, il y avait des manifestations dans les rues. Woody Guthrie a écrit une chanson folk de protest song titrée « Ilse Koch » relatant cette immense injustice. Et en fait, la controverse a été si explosive que c'est monté jusqu'au bureau du président Truman. Grâce en partie à son intervention, le Sénat américain a décidé d'organiser des audiences autour de cette controverse afin d'établir ce qui n'avait pas fonctionné et pourquoi Koch avait été relaxé de leur point de vue. Et il fallait trouver une solution afin qu'elle soit emprisonnée à nouveau. Ils ont donc décidé de se reposer sur le gouvernement de la toute nouvelle Allemagne fédérale en déclarant que vous voulez prouver vos principes démocratiques, vous voulez prouver la légitimité de votre système judiciaire, vous avez ouvert une enquête sur Ilse Koch. Vous êtes ceux qui l'arrêtent le jour où elle sort de la prison américaine et vous la mettez en examen. Mais cette fois-ci, pour des crimes perpétrés contre des citoyens allemands, ce qui permettra de ne pas faire de double accusation.
À Augsbourg, un tribunal allemand vient d'ouvrir le troisième procès d'Ilse Koch, femme du chef de camp de Buchenwald. Acquittée par un tribunal SS en 1944 sur accusation de vol, condamnée à 4 ans de prison par un tribunal américain pour crime contre l'humanité, Ilse Koch doit répondre aujourd'hui de l'assassinat de plus de 100 Allemands internés à Buchenwald. On déplore, devant les charges qui pèsent sur l'accusé, que la nouvelle loi allemande ait supprimé la peine de mort.
Lorsque le verdict est prononcé en janvier 1951, elle est condamnée à la prison à vie pour dénonciation et incitation au meurtre sur 135 prisonniers allemands. Le 1er septembre 1967, elle se suicide par pendaison dans sa cellule de sa prison bavaroise pour femmes. Un mythe vient de naître.